하나님의 말씀은 히브리서 9장
La parole de Dieu se trouve dans Hébreux chapitre 9 verset 11 à 28. Hébreux 9 11 à 29, lisons à tour de rôle. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des boucs et des taureaux est la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair. Combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constaté. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, a pris le sang des veaux, des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même et de tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous ». Et de la même manière, il aspergea de sang le tabernacle et tous les objets du culte. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire que d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte, et que d'autre part, les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme à imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas entré afin de souffrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Car alors, le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il était réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même aussi, le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Nous allons prier d'abord pour l'évêque d'honneur, pour que Dieu le choisisse et pour que Dieu puisse nous aider à recevoir sa parole, et prions pour que l'évêque d'honneur ne soit pas fatigué.
귀한 것을 받기를 원하오니 영생이라는 말씀 받기 원하오니 하나님 도와주시옵소서. 우리의 정말 부족한 마음을 깨주시옵시고 정말 하나님의 마음으로 대신 채워주시옵소서. 오늘 말씀 전하는 종을 하나님께서 복주시옵시고 또 강건케 해주시사 피곤치 않게 해주시되 우리 하나님의 진심을 우리 하나님의 심정을 우리 하나님의 그 뜨거운 진실을 다 나타내는 부족함 없도록 도와주시옵시고 오직 우리 모두가
하나님 아버지,
Dieu le Père,
오늘 거룩한 날, 우리 영혼을 이 자리에 불러주셔서,
Tu as appelé nos âmes à ce jour saint et nous avons obéi. à ton commandement. Merci de nous permettre de t'obéir. Donne-lui la sagesse, donne à ton serviteur la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole, que nous puissions être totalement attentifs à ta parole pour recevoir la grâce et la bénédiction. Je prie au nom de Jésus. C'est le sang qui rachète le péché. Dieu est amour, il a aimé le monde et qui a donné son Fils unique. C'est celui qui est venu avec le sang de Dieu. Dans le sang, il y a la vie et efface le péché. Le prix du salaire est la mort, c'est l'esprit qui subit la mort. Le péché, c'est quitter Dieu, et celui qui a quitté ne peut que mourir spirituellement. Celui qui est mort ne peut pas sauver les morts. Le sang de Jésus-Christ est le sang de Dieu et qui est vivant éternellement. Dieu possède le sang. Par le sang de Jésus, il a racheté nos péchés. Par le Saint-Esprit, il a sauvé nos âmes. Celui qui vit par le Saint-Esprit a été né de nouveau et a obtenu la vie. Jésus-Christ a souffert de la passion sur la croix. Par ce, la foi a été perfectionnée. C'est lui qui est l'agneau de Dieu. Le christianisme, c'est croire au sang de l'agneau de Dieu, c'est la foi parfaite. Dieu a souffert de la passion par son sang pour l'humanité. Il a racheté les péchés et notre foi en témoigne. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité qui témoigne de Jésus, il demeure dans nos âmes et les a scellés. Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez le sang de Jésus? Celui qui n'a pas le sang est toujours sous le péché. Oui, non. Dieu est amour. Dans l'amour, il y a beaucoup de choses, comme vous le savez très bien, en fait. Et puis, il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour entre hommes et femmes, et puis il y a aussi un amour pour un objet. Vous pouvez aimer quelque chose, un objet, c'est une sorte d'amour aussi. Les parents aiment leurs enfants. Cet amour-là, et le modèle est une parabole de l'amour de Dieu pour nous. Les parents aiment leurs enfants sans aucune condition. C'est pourquoi cet amour-là est appelé agapé, amour agapé. Lorsqu'on était jeune, on a beaucoup de rêves, on a beaucoup d'espoir. Et puis, pour les filles, par exemple, pour les femmes, lorsqu'on est jeune, je vais faire telle ou telle chose, c'est ce qu'on espère. Mais si on se marie et si on a des enfants, on se concentre totalement sur des enfants. On consacre toute sa vie à l'élévation de l'enfant. C'est pourquoi les rêves qu'on a eus quand on est jeune s'arrêtent, ne se réalisent plus. Et on pense seulement à nos enfants. Et puis, on consacre tout son temps, toute sa vie à son enfant pour que ce dernier puisse réussir. L'amour des parents pour son enfant est reconnu par son enfant, je ne pense pas, parce que l'enfant ne comprend pas bien ses parents, l'enfant ne comprend pas leur amour. Par exemple, l'enfant aussi, il grandit et puis il devient adolescent, il embête trop ses enfants. Mais même si les enfants, même si les parents souffrent à cause de leur enfant, ils ne peuvent pas l'abandonner, ça, ce n'est pas possible. Il peut y avoir beaucoup de problèmes entre la mère et la fille. Donc, parfois, la mère dit à sa fille, ça c'est du impossible, tu es mon ennemi, tu es même mon ennemi, c'est ce qu'on dit. Si la fille s'en va et si elle ne revient pas à la maison, la mère s'inquiète-t-elle? C'est ça le cœur de la mère. Alors, si la fille se marie et a un enfant, elle commence à comprendre le cœur de sa mère. Il y a beaucoup de femmes qui réagissent de telle manière. Donc, l'amour des parents pour leurs enfants est unilatéral et inconditionnel. Donc, l'amour des parents pour leurs enfants est illimité, inconditionnel. Même si les parents haïssent parfois leurs enfants, cette émotion disparaît très vite parce que leur amour est illimité et très profond. C'est ça l'amour de Dieu pour nous. Il faut que nous comprenions la relation entre parents et enfants pour que nous puissions comprendre notre relation avec Dieu. Dieu nous aime et il a pitié de nous. C'est la raison pour laquelle le christianisme est basé sur l'amour de Dieu. Les chrétiens sont ceux qui ont reçu l'amour de Dieu. Nous avons été aimés et nous serons aimés éternellement par Dieu. Mais les êtres humains possèdent un certain désir charnel. Ils sont trop opprimés par leur convoitise. C'est pourquoi ils haïssent Dieu, ils se plaignent contre Dieu, ils désobéissent à Dieu. Mais Dieu les patiente. On peut agir d'une telle manière dans ce monde, mais ce n'est pas utile du tout à nous. Parce que en tant qu'être humain, il faut être aimé au maximum par Dieu pour mûrir. Comme des blés, par exemple. Si on tombe en tentation, on s'arrête de mûrir, on s'arrête de croître. On devient ivré. C'est pourquoi, écoutant la prédication, en écoutant la parole de Dieu, on doit connaître Dieu. Il faut recevoir la grâce de Dieu pour pouvoir. Il faut connaître la grâce de Dieu pour bien enseigner, pour bien prêcher l'évangile. Même on est pasteur, il faut qu'on connaisse son amour, sa grâce pour mieux enseigner les fidèles. Parfois, on est opprimé par nos désirs charnels. Il faut reconnaître son amour de manière illimitée. Il faut vraiment essayer de recevoir son amour de manière illimitée. Si on a reçu son amour, et si on a vraiment reçu l'amour de Dieu, ça se voit. Puis si Dieu nous aime, on peut aimer aussi les autres. Cet amour ne peut que être vu et cet amour ne peut qu'influencer. On ne peut que révéler cet amour-là. On peut répandre le parfum de cet amour. Comme j'ai entendu dire hier, les fidèles de l'Église sont manqués d'amour. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, chaque fois que j'entends dire cela, j'ai honte. Et puis, je suis vexée. C'était une grand-mère qui l'a dit. Elle me disait, ça fait 15 ans, ça fait plus de 15 ans que je suis là. Donc, je lui ai dit, c'est vous-même qui pouvez aimer les autres. Et cette grand-mère dit, en fait, personne ne m'aime, pourquoi je peux aimer? Le problème, c'est que tout le monde veut être aimé au lieu d'aimer eux-mêmes. Mais il faut aimer tout simplement. Si on a reçu l'amour de Dieu, il faut aussi aimer les autres. Si on est aimé de Dieu, il faut reconnaître vraiment cet amour-là et puis il faut l'expérimenter d'une manière réelle et il faut en parler aux autres et il faut pratiquer cet amour dans ce monde. Et concernant l'évangile aussi, si on a reçu cet évangile, il faut le manifester. Il faut le transférer aux autres. C'est ce qu'on appelle amour. Comment Dieu nous a aimés? Il faut y penser. Si vous ne reconnaissez pas l'amour de Dieu, vous ne pouvez pas manifester cet amour-là. Ça, ce n'est pas possible. Donc, si nous sommes vraiment chrétiens, il faut aimer les âmes des autres. C'est ce qu'on doit absolument faire. Humainement, c'est difficile. Humainement, c'est fatigant, mais il faut surmonter cette fatigue. Lorsque la mère élève son enfant, elle est fatiguée. C'est dur, mais elle patiente jusqu'au bout. Elle amadoue son enfant parce qu'elle aime. Dieu nous aime, c'est pourquoi il faut que nous pratiquions l'amour de Dieu. Comment peut-on exprimer l'amour de Dieu? Dieu a pitié de nous. Dieu avait pitié de nous. Puisque Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils unique. Dieu nous a donné donc la foi. Jésus est la foi que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi Dieu nous demande de croire en lui. Il faut croire à l'amour de Dieu envers nous, qui nous a donné même son Fils unique. Il faut croire en son amour. Il faut que nous soyons capables de recevoir son amour. Mais le problème, c'est que nous sommes trop égoïstes. Nous sommes comme des superstitieux qui pensent seulement à leur propre destin, à leur vie charnelle. Pour prospérer dans ce monde, ils font beaucoup de choses humaines. Ils font des actes superstitieux. Alors, on va au-devant de Dieu sans reconnaître son amour. On est trop désireux de des choses de ce monde. Le désir charnel est très dangereux. C'est le désir charnel qui fait naître le péché et le péché qui fait naître la mort. Donc, il faut que nous recevions l'amour de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ce monde? Le peuple d'Israël, ayant reçu La révélation de Dieu sur le mont de Sinaï a tué des agneaux, des vaches, etc., etc., pour asperger leur sang. Pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils ont été maudits et ils étaient sous la colère de Dieu. Alors là, ils devaient en sortir. Pour ce faire, ils devaient tuer des animaux pour que ces derniers soient maudits à leur place, pour qu'ils soient sous la colère de Dieu à leur place. Donc, puisqu'il y a des animaux qui ont pris en charge leur péché, le peuple d'Israël pouvait être libre. Mais cette pratique a été valide seulement pour un an. C'est pourquoi cette pratique devait se faire 8 fois par an. Il y a grand nombre d'agneaux qui ont été sacrifiés. Cette pratique s'est poursuivie jusqu'à la venue de Jésus. Alors, par le sang de l'agneau, le peuple d'Israël pouvait éviter le malheur, la souffrance. C'était une parabole pour Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est enfin venu et c'était l'agneau de Dieu et c'est lui qui a versé le sang de Dieu. Ce message a été prêché par les prophètes au peuple d'Israël et il était au courant de ce message. Mais il dépendait seulement du sang des animaux à leur époque. Mais quel était le message de Dieu? Le sang des animaux ne peut pas les racheter pour l'éternité. Le Fils de Dieu est enfin venu pour les hommes. Il n'y a plus de sacrifice des animaux parce que Jésus lui-même est venu. Jésus est venu et Jésus est mort 1 fois pour toutes. Donc il n'y a plus de nécessité de sacrifice des animaux. Selon le commandement de Dieu, Dieu est notre Père. Les gens de religion n'ont pas de Père, en fait. Ils ne peuvent pas appeler Dieu Père, mais nous l'appelons Dieu Père puisque nous croyons en Jésus. Lorsque nous croyons en Jésus, nous appelons Dieu Père. Alors, comment pouvons-nous obtenir cette foi-là? Comment nous avons obtenu cette foi? D'où elle est venue? Lorsque Jésus a été crucifié, il a racheté nos péchés. Qu'est-ce que la rédemption? Qu'est-ce que le rachat de péché? C'est rembourser la dette. Donc Jésus a remboursé notre dette qui était le péché. Parce que quelle était notre dette? C'est la mort, parce que nous avons péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous devons payer la mort, mais c'est la mort qui a été payée par Jésus à notre place. Le prix du salaire, le salaire du péché, pardon. Le salaire du péché a été payé par Jésus-Christ. Lévitique, chapitre 17, verset 11, il est dit, dans le sang, il y a la vie, c'est le sang qui efface le péché. Donc, c'est le sang qui peut faire disparaître le péché. C'est-à-dire, c'est le sang qui peut rembourser la dette. Nous chantons aujourd'hui le sang de Jésus et puis nous en parlons, mais nous ne croyons pas au sang de Jésus. C'est étrange. Dans le sang, il y a la vie, donc c'est ce sang-là qui peut racheter le péché de l'homme. Notre esprit, nos esprits sont déjà morts, donc nos esprits sont dénués de vie. En fait, l'argent et l'objet ont différentes formes. La valeur est la même, mais la forme est différente. On paie, ensuite on obtient un objet. De la même manière, Dieu a déjà donné son sang. Il a confié son sang pour obtenir les âmes mortes. Nos âmes sont mortes, mais Dieu a versé son sang par lequel il les a rachetées. Donc Jésus est mort sur la croix. Et ce n'est pas la peine d'imaginer la scène où Jésus a souffert de la passion sur la croix. Ce n'est pas la peine d'imaginer, d'imaginer la scène de la souffrance de Jésus-Christ. Sa mort était légitime, légale. Et puis, c'était une mort parfaite, irréprochable au niveau médical. Donc, c'était une réelle mort. Jésus a été châtié en tant que criminel. Il n'était pas pécheur, mais il a été exécuté parce qu'il était condamné à mort dans ce monde. Donc, sa mort était légitime. Dieu connaissait tout. Dieu sait que Jésus était sans péché et le sang de Jésus l'a déjà acheté. Donc vous et moi, est-ce que nous croyons en Jésus? Jésus est mort. Il a été mort sur la croix et en versant son sang. Est-ce que nous croyons à son sang? Est-ce que nous croyons à la rédemption, à notre rédemption? Dites amen si vous y croyez. Alors sur la croix, Jésus est mort pour nous. Pour nous racheter, notre statut est pécheur. Qu'est-ce que ça veut dire, être pécheur? Éthiquement, moralement, nous avons beaucoup de fautes, ce n'est pas ça. Du point de vue de Dieu, le pécheur, c'est celui qui n'a pas Dieu. Le péché, c'est de ne pas croire, de ne pas connaître Dieu, c'est de ne pas avoir Dieu. C'est ce qu'on appelle le pécheur. On n'a pas d'âme, on n'a pas de Dieu dans nos âmes. C'est ça le pécheur au point de vue de vie de Dieu. Les croyants, les incroyants sont pécheurs parce qu'ils n'ont pas de Dieu. Ils doivent entrer dans l'enfer. Tout en croyant en Jésus, quel est le nom de Jésus? Si vous croyez en Jésus, vous avez possédé le nom de Dieu. Nous avons possédé le nom de Dieu. Nous croyons au nom de Jésus et nous l'accueillons. Nous sommes enfants de Dieu, donc. Nous appelons Dieu Père. Donc, vous étiez pécheur, mais si vous croyez en Jésus, vous n'êtes plus pécheur, vous êtes enfant de Dieu. Dieu n'a aucun rapport avec les pécheurs. Dieu ne peut pas faire des pécheurs ses enfants. Il faut que Dieu règle le problème du péché. Alors, il nous a libérés du péché, ensuite il nous a justifiés, il a fait de nous ses enfants. Donc, il n'a jamais reconnu celui qui n'a pas été justifié comme son enfant. Il faut que nous comprenions cette partie-là parce que c'est important. Nous pourrons être sauvés par nos propres paroles et nous pourrons être condamnés par nos propres paroles. Cela signifie que notre parole importante, nous devons reconnaître ou ne pas reconnaître par nos propres paroles. Qu'est-ce que le monde spirituel? C'est le monde spirituel qui est très, très clair et froid. Il n'y a pas de milieu dans le monde spirituel. Dites Amen si vous croyez en Jésus. Vous n'êtes pas pécheur donc. Est-ce que vous croyez en Jésus? Si vous regardez des chanteurs, ils chantent d'une manière émouvante, n'est-ce pas? Ils le touchent profondément. Dites Amen si vous croyez en Jésus. Si vous croyez en Jésus, vous êtes pécheur. Dites Amen si vous êtes pécheur. Non, on n'est pas pécheur, n'est-ce pas? Si nous croyons en Jésus, nous ne sommes plus pécheurs. Nous avons été libérés du péché. Matthieu chapitre 1, verset 21, il est dit, nous avons été sauvés du péché. Le sauver du péché. Si nous accueillons le nom de Jésus et si nous appelons Dieu Père, c'est fini. Nous avons le droit d'appeler Dieu Père. Nous avons une qualification pour appeler Dieu Père. Dites Amen si vous, croyez en Jésus. Dieu le Père. Dieu le Père. Dieu le Père. Lorsque nous appelons Dieu Père, nous disons notre Père qui est aux cieux. Nous utilisons le nom notre. Pourquoi nous utilisons le mot nous? Nous avons des frères et sœurs, n'est-ce pas? Et alors là, moi aussi, j'appelle mon père, père. Et puis, ma sœur, mon frère aussi, l'appelle père. Donc, il est notre père. De la même manière, il y a beaucoup de membres de Jésus-Christ dans l'Église. Nous sommes tous membres de Jésus. Et lorsque nous utilisons le nom « nous », « nous » se réfère à l'Église. Chacun de nous constitue l'Église. Donc, il est notre Père. Si nous sommes seuls, si nous menons la vie de la foi seuls, nous ne pouvons pas appeler Dieu notre Père parce que nous sommes seuls. Mais nous ne sommes pas seuls parce que nous constituons l'Église. Nous sommes tous sœurs et frères. Nous sommes les membres de l'Église. Nous ne pouvons pas mener la vie de la foi tout seul parce que Dieu est là où se trouve, il y a deux ou trois personnes. Nous ne pouvons pas être seuls. Ça, ce n'est pas possible. Toujours, nous sommes conduits par quelqu'un et puis ce dernier a été aussi conduit par quelqu'un d'autre. Et puis nous conduisons aussi quelqu'un d'autre parce qu'il y a donc toujours plusieurs personnes. Lors du baptême aussi, nous ne pouvons pas être baptisés tout seuls. Il y a quelqu'un qui nous aide. Jésus n'a pas dit « vous pouvez tomber dans les eaux tout seul et puis vous pouvez en sortir ». C'est ça le baptême? Non. Au nom de Jésus, on bénit. Donc, il y a celui qui baptise et il y a celui qui est baptisé. Donc, il y a toujours deux ou trois personnes et puis il doit y avoir certains témoins aussi pour le baptême. Donc, il faut utiliser toujours le mot « nous » et « notre ». Alors, c'est très important. Et nous appelons Dieu Père, il est notre Père, mais le problème, c'est qu'on n'est pas conscient de l'Église. C'est problématique. Je suis vraiment reconnaissant parce que je suis pasteur. Et puis, il y a l'église de Sangnac. Il y a aussi les membres de l'église Sangnac. Donc, je pense toujours à eux. Je pense toujours à l'église. Il faut que je sois en bonne santé pour que l'Église soit en bonne santé. Et il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que je sois rempli de la puissance de Dieu pour que l'Église soit puissante, pour que l'Église soit remplie du Saint-Esprit. Parce que j'en suis responsable. Donc, je suis vraiment reconnaissant parce que je ne peux que penser à l'Église. C'est ça ma responsabilité. Donc, je suis vraiment reconnaissant pour cela. Devant le bâtiment de l'église, il y a une statue qui s'appelle nous, en coréen, Uri, parce que nous sommes tous des sœurs et frères et nous sommes tous liés. C'est une construction, nous édifions quelque chose. Donc, il ne faut pas que le diable intervienne dans cette relation. Pour cela, il faut penser à l'Église, il faut l'édifier. Il faut y penser. Donc, nous pensons tout le temps à notre Église. Si on n'aime pas l'Église, si on commence à haïr l'Église, on commence à critiquer le pasteur, ça c'est pas bien du tout. Dieu nous a dit de ne pas nous venger nous-mêmes. Parce que c'est Dieu qui se venge. Donc, ce n'est pas la peine d'agir pour se venger contre quelqu'un. Pour nos propres âmes, il ne faut pas... Il ne faut pas critiquer le serviteur de Dieu parce que des pasteurs, des serviteurs de Dieu, eux, en fait, ils prient pour nous. Et les conducteurs, ceux qui nous conduisent, prient aussi pour nous. Et nous constituons l'Église, nous l'édifions. Dieu est notre Père. Et l'Église est notre Église. C'est très important d'utiliser le mot « nous » ou « notre ». Nous appelons Dieu Père, nous pouvons l'appeler Père, parce qu'en Jésus-Christ, nous le disons, nous croyons en Jésus, donc nous ne sommes pas pécheurs. Donc en tant que libérés, nous utilisons le mot « notre » ou « nous ». C'est important. Et puis, c'est pourquoi c'est valide aussi. Si nous sommes sous la loi, nous ne pouvons que, qu'avoir peur. Le mot pécheur et ne doit pas être utilisé par nous parce que nous avons été baptisés. Il n'y a aucun et personne qui dit « Je suis pécheur après le baptême » si vous regardez le Nouveau Testament. Donc il ne faut pas utiliser le mot pécheur après avoir été baptisé. Si nous servons nos parents âgés, nous ne pouvons pas les voir toute la journée parce que nous devons aller travailler dans la journée. Donc, nous retournons à la maison, nous les voyons pendant la nuit, pendant la soirée. Donc, on ne peut pas les voir souvent. Donc, on dit, je m'en excuse, Père. C'est comme ça que nous confessons notre infidélité vis-à-vis de nos parents. Notre statut, c'est le fils de père. Lorsqu'on s'excuse à nos parents, cela ne signifie pas que nous ne sommes pas ses enfants. Nous restons leurs enfants, mais parfois on présente nos excuses à nos parents parce que nous ne les avons pas bien servis. C'est pourquoi on s'excuse. De la même manière, mais on est des enfants de Dieu. Alors parfois, on se repent en disant « je suis pécheur ». C'est parce qu'on n'a pas bien rempli nos obligations, mais nous sommes toujours enfants de Dieu. Donc, il ne faut pas douter de son amour. Si on pêche volontairement après avoir été racheté, il n'y a plus de sacrifice pour nous racheter. Qu'est-ce que c'est pécher volontairement? Lorsqu'on était pécheur, on n'avait aucun rapport avec Dieu. J'étais ennemi de Dieu. Pécher volontairement, c'est retourner à cet état, retourner à l'état du passé. Donc on redevient pécheur. On redevient pécheur en péchant volontairement. À ce moment-là, il n'y a plus de sacrifice qui nous rachète. Donc, ce qui est le plus dangereux, c'est perdre le premier amour. Si on perd son premier amour, il faut se repentir le plus vite possible et pour retrouver son état normal. Bon, le problème, c'est qu'on ne poursuit pas la vérité dans notre vie de la foi. On agit à son gré. C'est pas la peine à ce moment-là de lire la Bible si vous voulez vivre à votre guise. Je pense que vous êtes heureux parce que l'Église, son arc vous enseigne d'une manière très utile et efficace. Romains chapitre 7, il est dit. Il y a mon esprit et il y a ma chair. Mon esprit veut poursuivre la vérité, mais moi, je veux poursuivre le désir charnel. Il y a deux lois, il y a l'esprit et il y a la chair. Il y a deux choses qui se battent. Et alors, à quel point suis-je misérable? Alors, jusqu'à quitter ce monde, la lutte entre l'esprit et la chair va poursuivre. Mais il y a la grâce de Jésus-Christ qui nous libère de tout. Donc, même si on pêche, on peut aller au-devant de Jésus-Christ. Parfois, on peut être en difficulté. Est-ce que c'est à cause de mon péché? Si on a péché, il faut se repentir, bien sûr. Est-ce que lorsqu'on se repent, il ne faut pas penser à tort que Dieu nous a abandonnés, il n'y a plus de Dieu. À ce moment-là, on pêche volontairement. Si on dit, si on se dit lorsqu'on se repent, lorsqu'on est en difficulté, on se dit, ah, Dieu m'a abandonné. Ah, je n'ai pas Dieu. Si vous y pensez, le diable entre en vous. Donc, l'incrédulité, c'est pour ceux qui périssent. De Corinthiens, chapitre 4, verset 3. Si on périt, si on est destiné à périr, on ne croit pas. Et verset 4, on a cru, on croyait, mais si on tombe dans une confusion spirituelle, c'est parce que le diable a semé des confusions en nous. Alors, on n'arrive pas à croire à cause de cette confusion. Mais Jésus est l'image de Dieu. Dieu est Dieu. Et ce Dieu a été incarné. Et ce Dieu a été manifesté dans ce monde. C'est lui qui est unique. C'est lui qui est Dieu unique. Il n'y a plus de Dieu que notre Dieu. Il n'y a plus d'autre Dieu que notre Dieu. Alors la chair est devenue la parole est la parole est devenue chair et cette chair a versé son sang pour nous. Donc, même si on pêche, il ne faut pas pêcher volontairement en disant « Dieu m'a abandonné, je n'ai plus de Dieu ». Il ne faut pas dire n'importe quoi lorsqu'on est en difficulté. On peut s'excuser à Dieu, on peut présenter nos excuses à Dieu, mais il ne faut pas dire n'importe quoi en disant « Il n'y a plus de relation entre moi et Dieu ». Ça, ce n'est pas possible. Il ne faut pas dire ce genre de choses. Par la puissance du sang de Jésus, on peut toujours vaincre. Dieu est notre Père. Il faut absolument garder cela. Il est dit dans Job, chapitre 1, et Job a eu 10 enfants. Chaque fois que leur anniversaire tombe, ils fêtaient, ils se réunissaient et ils fêtaient leur anniversaire. Chaque fois qu'ils se réunissaient, ils étaient heureux et joyeux parce qu'ils manquaient de rien, parce qu'ils étaient très riches. Alors, l'ambiance est très, très bonne. Mais Job priait chaque fois que cette fête se termine. Parce que Job craignait que leurs enfants oublient Dieu. Donc, à la place de leurs enfants, Job priait à Dieu. Mais leurs 10 enfants sont tous morts subitement. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le sang de Jésus. Parce qu'il n'y avait pas le sang de Jésus. Dans ce monde, aux yeux de... de l'homme, ils étaient justes, mais aux yeux de Dieu, ils étaient pécheurs parce qu'ils n'ont pas le sang de Jésus. Donc, il ne faut pas pécher volontairement. Dieu est notre Père. Il est notre Père. C'est vraiment important de pouvoir appeler Dieu Père parce que c'est le cadeau que Dieu nous a offert. Jésus-Christ a été battu de verge, c'est pourquoi nous avons été guéris de nos maladies. Il a été flagellé, c'est pourquoi nous sommes guéris de nos maladies. Qu'est-ce que c'est la verge dont on parle ici? Ce n'est pas un simple bâton qui nous a frappés. où c'était fatal. Même si on a été battu de cette verge, d'une seule fois, on pouvait être tué. C'est à ce point-là que c'était redoutable. C'était un châtiment terrible. Alors, en fait, moi, j'ai vu cette verge-là. Et cette verge a été faite en cuir. Et puis sur ce cuir-là, on a mis des morceaux de verre cassés. Donc, à quel point c'était épouvantable. La chair a été déchirée complètement par cette verge-là. Mais Jésus a été flagellé à notre place. C'est pourquoi nous avons été guéris de nos maladies. Donc, nous avons été guéris, nous sommes patients. Mais Jésus a été battu de verge. Et on n'est plus patient. Hein. Il faut que nous soyons en éveil. Nous ne sommes plus patients. J'ai été guéri de nos maladies, donc il faut que nous surmontions le reste. Il faut que nous surmontions le reste, c'est ce qu'on doit faire. Il y a eu un paralytique qui a été amené à Jésus. Ce paralytique a été guéri par Jésus. Jésus lui a dit, « Rassure-toi, mon enfant. » Tu n'es plus malade, tu as été guéri. Alors là, à ce moment-là, ce paralytique a été libéré de sa maladie. Alors, c'est lui qui devait prendre le lit, c'est lui qui devait se lever. C'est lui qui devait surmonter le reste. Il y a eu un autre paralytique qui devait qui a été aussi devant Jésus. Alors il l'a guéri et il s'est levé et il a été complètement guéri. Lorsque j'étais en province, j'ai rencontré un paralytique qui a été complètement paralysé. Il ne pouvait pas bouger. C'était un malade grave. Alors, les jambes, les bras ont été tordus. Mais pendant la croisade, il a reçu la grâce. Alors, ce paralytique a cru à la parole de Dieu. Alors, il a cru que le Seigneur l'a guéri parce qu'il a été flagellé à sa place. Donc, il était plus patient, il était plus malade. Alors, c'est lui qui devait marcher parce qu'il était plus malade. C'est lui qui devait surmonter le reste. Alors, à la fin de la croisade, il a été assis, mais il avait cru à avoir été guéri. À partir de ce moment-là, il avait essayé de se lever, de marcher. Il a marché. Il ne pouvait pas avoir des enfants hein, parce qu'il a été complètement paralysé. Mais il s'est levé, il a marché après cette croisade. Et ensuite, un certain temps après, il m'a invité à son mariage. Donc, je suis allée à la cérémonie de son mariage. Il a été guéri, donc il pouvait se marier. Alors, à la cérémonie de mariage, il a marché pendant cette croisade. J'ai beaucoup pleuré lorsqu'il avait marché. Lorsqu'il a entré dans la salle de cérémonie, Il a marché. Lorsqu'il est entré dans la salle de la cérémonie, il a marché. Ça m'a beaucoup touché en fait. J'ai beaucoup pleuré lorsqu'il avait marché. Il m'a montré ses pieds. Et alors là, ses pieds ont été blessés parce que même s'il avait très mal aux pieds, il s'est levé, il a marché. Alors, il a beaucoup souffert lorsqu'il avait marché, mais il l'a fait. Parce que je lui ai dit, Dieu t'a guéri, donc pour marcher, c'est toi qui dois bouger. Et il a eu 5 enfants même. Il avait 5 enfants, c'est incroyable. Et puis, j'ai eu un autre fidèle. Je voudrais un peu parler de lui. Il avait mal à son dos. Alors, j'ai prié pour lui. Alors, je lui ai dit de se lever. Et pour la première fois, il avait du mal à se lever, mais pour la deuxième fois, il s'est levé et il m'a dit « Ah, je n'ai plus de mal à mon dos ». Alors, il avait souffert à cause de son dos, mais lorsque je lui ai dit « Lève-toi, levez-vous », il s'est levé, alors il était plus malade. Si Dieu agit, on n'est plus malade. Donc, on est guéri de la maladie. Ensuite, il faut agir en tant qu'homme. Normal. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas malade. Certains disent, ah, vous êtes malade, mais je vous dis, je ne suis pas malade. Je vous ai dit que je suis un handicapé. Même si on a atteint un cancer, si on est atteint d'un cancer, on ne sait pas quand on va mourir. Mais même celui qui est atteint d'un cancer n'est pas handicapé. Mais si on est handicapé, on peut être aidé par l'État. On peut bénéficier de certaines aides de l'État. Parce que si on a un handicap, on a beaucoup de mal à vivre dans ce monde. Et cet handicap perdure. Moi, je suis un handicap. Je suis handicapé. Alors, si, pendant 8 semaines, si je ne bouge pas, pendant 8 semaines, je ne peux plus utiliser mes jambes. Je suis handicapé. Je vous le dis. Mais moi, en fait, moi, je surmonte cet handicap. Par exemple, il y a un aveugle, mais il peut jouer du piano. C'est ainsi qu'il surmonte son handicap. De la même manière, on a été malade, mais Dieu nous a guéris. Ensuite, on doit marcher, on doit se lever. On doit prendre le lit, on doit se lever et marcher. Si vous dites toujours, je suis toujours malade, vous le serez toujours. Dites Amen si vous croyez en Jésus. Dites Amen si vous croyez en Jésus. Donc, vous n'êtes plus malade.
채찍에 맞으심으로써 너는 나무로 날려서 주께서 채찍에 맞았다는 사실.
Le Seigneur Jésus a été flagellé, alors il nous a guéris. Il faut croire qu'il a été flagellé à notre place, en notre faveur. Donc nous avons été guéris de nos maladies. Si on souffre encore, on doit surmonter cette souffrance. Si vous pensez toujours que vous êtes malade, vous ne croyez pas, donc à ce moment-là, les dieux de ce monde interviennent. Jésus est l'image de Dieu. Alors, cette image est venue dans ce monde et c'est lui qui a réglé le problème du péché. Donc, il faut y croire tout simplement. Si nous sommes dans une certaine confusion, le diable intervient toujours dans notre vie, c'est pourquoi nous souffrons toujours. Si je vous prêche comme ça, vous dites oui, amen, amen, je ne suis plus malade, je ne suis plus malade. Mais si je vous demande, venez devant moi si vous êtes malade, alors vous voulez encore venir devant moi parce que vous voulez encore que je prie pour vous. Mais vous n'êtes plus malade, mais vous voulez encore que je prie pour vous, à ce moment-là, vous redevenez malade. C'est incroyable, c'est quel caprice. Il faut croire en Jésus, tout simplement. Dites amen si vous croyez en Jésus. Vous n'êtes pas pécheur. Dites amen si vous êtes, si vous croyez en Jésus. Vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas malade. Servez Dieu, tout simplement. Si vous n'êtes pas malade, servez Dieu. Servez Dieu si vous n'êtes pas malade. C'est remonté, le reste, marchez, prenez votre lit, levez-vous. Si je n'ai pas de canne, je ne peux pas bien marcher, hein? C'est difficile. Si j'ai canne, je peux marcher confortablement. Mais l'ancien Zhou Sangho me disait, pasteur, pasteur, il ne faut pas que vous utilisiez la canne. Parce que une fois on la utilise, on ne peut pas la lâcher. On ne peut que dépendre d'elle. Donc, il ne faut pas utiliser la canne. Si je n'ai pas de canne, je ne me sens pas à l'aise. Donc, lorsque l'ancien Zhou m'a dit cela, j'ai abandonné la canne, donc moi, mais je n'ai plus besoin de la canne. Donc, il faut surmonter ce genre de choses. Je suis handicapé, mais je ne suis pas malade. Alors, ce n'est pas la peine de me dire, pasteur, vous êtes malade, ça va, mais ce n'est pas la peine de me le dire, parce que je ne suis pas malade. Ce n'est pas la peine de m'offrir des médicaments, il suffit de me donner des liquides. Il faut avoir la foi, dites amen si vous avez la foi. Il a versé son sang, il a été flagellé, dites amen si vous croyez en lui. Le christianisme est différent des religions parce que nous croyons en Jésus. C'est lui qui a versé son sang, c'est lui qui a été flagellé. Nous y croyons. Jésus-Christ, pendant 33 ans, il a vécu dans ce monde. Le jour où il devait quitter ce monde, il avait mangé pour la dernière fois avec ses disciples. Pour le dernier souper, Jésus a prêché le dernier sermon. Et qu'est-ce que vous connaissez le message de ce dernier sermon? Qu'est-ce qu'il a dit? Mangez, ma chair, vivez de mon sang. C'était le dernier message de Jésus-Christ. Il faut y réfléchir profondément. Quel était son dernier message? Jésus a totalement... Il s'est constamment concentré sur la réalisation de la volonté de Dieu. Et alors, Au dernier souper, il a parlé de son sang. Le sang était dans son dernier message. Qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons au sang de Jésus. Nous croyons au dernier message de Jésus. Jusqu'à présent, on avait bu du vin qui est issu d'une plante. Mais c'est une parabole tout simplement. Et maintenant, nous vivons le sang qui est venu des cieux. À la Sainte-Seine, nous vivons du vin et dans le catholicisme, les gens disent que le vin est le sang de Jésus, mais ce n'est pas vrai, c'est le mysticisme. Jésus nous a dit, chaque fois que Nous vivons du vin, il faut penser au sang de Jésus. Jésus nous a dit lors du dernier souper avec ses disciples, vivez de mon sang. Donc, à la Sainte Seine, il faut se rappeler du sang de Jésus lorsqu'on boit de la coupe. On s'en rappelle tout simplement. On s'en souvient lorsqu'on boit du vin. On a déjà bu le sang de Jésus. Donc, si vous êtes chrétien, Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous sauver. Et seul le sang de Jésus peut nous sauver. Seul le sang de Jésus est nécessaire pour nos âmes. Donc, Jésus nous a dit, vivez de mon sang, donc il faut que nous le vivions. Alors, nous avons été totalement guéris de nos maladies et nous avons été totalement libérés de nos péchés. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons agir d'une manière très active. Chaque fois que nous vivons de la coupe, il faut donc annoncer le sang de Jésus. Mon âme fait croître l'Église. Mon âme fait croître l'Église. Mon âme fait croître l'Église. Si je ne travaille pas, comment l'Église pourra croître? Il faut croire tout simplement au sang de Jésus, et il faut croire à son amour, et il faut accepter le dernier message de Jésus, il faut y obéir. Il faut que toute l'humanité voive le sang de Jésus pour être sauvée. C'est pourquoi Dieu nous a demandé de voir son sang. Nous constituons son corps. Si nous avons bu le sang de Jésus, nous devons l'annoncer. Nous devons l'annoncer dans ce monde en tant que personne ayant vu son sang. Nous devons l'annoncer dans le monde entier. Sinon, on pêche contre son corps et puis en plus, on mange ses propres péchés. Donc, c'est un péché lourd. Si on boit son propre péché, on ne peut que entrer en enfer. Si on pêche contre le corps de Jésus, on est comme Pilate. Et comme soldats qui ont tué Jésus. Si on ne croit pas au sang de Jésus, on pêche contre son corps, on pêche contre son sang, et on mange ses propres péchés. Ne pas évangéliser, c'est un grand péché. Dieu va réclamer il faut lire le livre en ce qui concerne l'évangélisation et on n'est pas desperdicieux. On vient à l'église pour vivre. Un jour, j'ai demandé à la chorale d'amener des nouveaux venus le dimanche. Alors, 80% des membres de la chorale ont amené des nouveaux venus au jour dont j'ai parlé. Donc, lorsqu'on évangélise, il faut être très patient. Il ne faut pas abandonner à mi-chemin. Et d'abord, il faut aimer l'âme. Ensuite, il faut lui annoncer l'évangile d'une manière continue. Il faut parler du sang de Jésus parce que dans le sang, il y a la vie. Et cette vie-là nous fait vivre. Donc, il faut d'abord parler du sang de Jésus et... Il faut donc évangéliser. Si on s'applique à l'évangélisation, on peut réussir. On peut amener des nouveaux venus. Si tous les membres de l'Église s'appliquent à l'évangélisation, on pourra voir l'Église croître. Pendant la fête, il ne faut pas suivre le cours de ce monde. Nous sommes des hommes spirituels. Alors, si nous travaillons en tant qu'hommes spirituels, nous pourrons réussir dans l'évangélisation. Alors, cette salle-là sera remplie de nouveaux âmes, je pense. Si Jésus nous demande pourquoi tu ne sauves pas l'âme, si vous dites les autres le feront, si vous le dites, vous pouvez être chassé en dehors par Jésus, alors il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il ne faut pas mener une vie sans valeur. Il faut évangéliser, il faut écouter la voix du sang de Jésus. Il faut accueillir le sang de Jésus, il faut accueillir son message. Nous allons chanter un cantique du sang doux. Nous allons chanter ce cantique pour nos âmes, pour raviver nos âmes. Vous avez écouté un message aujourd'hui. Alors, chantons ce cantique de toute notre force.
Je suis un peu plus de temps. 죄의 정욕을 이길 힘은 보혈의력 주의 보혈 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다
주의
보혈 능력이 있도다 주의 비밀도
주의
보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다
눈보다 더 희게
맑히는 것 보혈의 능력 주의 보혈 부정한 모든 건 맑히시니 참 놀라운 능력이로다
주의
보혈 능력이 또다 주의 비밀도
주의
보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 주의 복음을 전할게 목 보혈의 능력
주의
보혈 날마다 나에게 찬송 부리 참 놀라운 능력이로다
주의
보혈 능력이 또다 주의 비밀도
주의
보혈 그 보혈 매우 귀중한 피로다
여러분, 당신은 예수님의 마지막 최후의 메시지.
Est-ce que vous avez écouté le dernier message de Jésus qui est venu en chair dans ce monde? Vivez de mon sang. Il a été ressuscité et il nous a dit recevez le Saint-Esprit. Vivez de mon sang et recevez le Saint-Esprit. Si les églises d'aujourd'hui obéissent à deux messages, ils pourront faire croître l'église et les âmes pourront croître. Dites Amen si vous croyez vraiment au sang de Jésus. Vivez de mon sang trois fois. Vivez de mon sang à voix plus haute. Il faut boire le sang de Jésus. Vivez de mon sang. Même si vous ne pouvez pas vous rappeler, de toutes les paroles de Jésus, il faut vous rappeler du dernier message. Vivez de mon sang. Vivez de mon sang. Vivez de mon sang.
죄에서 자유를 얻게 하면 보혈의 능력 주의 보혈 더 크게 박수요
참 놀라운 능력이로다
주의
보혈 능력이 또다 주의 비밀도
주의
보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로
Lorsqu'on est en difficulté, lorsqu'il y a des tribulations surviennent, il ne faut pas penser que vous êtes malade, il ne faut pas penser à tort que vous êtes pécheur. Il faut que vous preniez votre lit, et il faut vous lever et marcher, il faut croire et il faut surmonter la souffrance que vous avez. C'est nous qui devons réagir. Il faut aimer le Seigneur d'abord et il faut être aimé de lui. Il faut aimer Dieu et il faut être aimé de lui. Et il faut obéir à son message. Vivez de mon sang. Vivez de mon sang. Si vous êtes berger, il faut enseigner d'une manière utile. Même si vous parlez trop haut, si vous ne croyez pas au sang de Jésus, vous allez périr. Dieu nous a aimés, et alors c'est pourquoi il nous a donné Jésus. Il fait en sorte que Jésus verse son sang. Il faut donc croire au sang de Jésus. Nous croyons au sang de Jésus. Je ne sais pas si je pourrai me tenir la semaine prochaine, je ne sais pas. Et lorsque je vous prêche, je pense que ça peut être le dernier, mon dernier sermon. Alors, évangéliser, c'est ce que je veux dire. Et évangéliser. Maintenant, cette semaine, ce sera la fête de la moisson. Et il ne faut pas suivre le cours de ce monde. Il faut obéir au message de Jésus. Même si vous pouvez être insulté, évangéliser sans cesse et amener des nouveaux venus. Dites amen si vous avez décidé de le faire. Levez les bras si vous avez décidé de le faire. Il ne faut pas laisser mourir les païens. Baissez les bras si vous allez laisser mourir les âmes. Mais levez les bras si vous avez décidé d'évangéliser. David a dit, je suis berger. Si un lion prend mes agneaux, David, qui était le berger, s'est battu même contre le lion pour sauver ses agneaux. Alors Dieu a dit, c'est lui qui me plaît. Alors là, Dieu l'a établi comme roi d'Israël. L'Égypte, la Syrie, la Babylone, et beaucoup de grandes puissances ne pouvaient pas toucher Israël. Alors là, le peuple d'Israël était très fort parce que Dieu était avec eux. Alors un Israélite a été tué, 1000 païens ont été tués. C'est ça la puissance d'Israël. Donc, Israël pense toujours à la venue du Messie. Lorsqu'il pense au Messie, il pense à l'ère de David. Vous devez avoir l'esprit du berger. Alors, si un agneau a été pris par le lion, il faut se battre même contre ce lion. Alors, David a plu Dieu. Il faut que vous puissiez plaire à Dieu. Dites amen si vous voulez plaire à Dieu. Dites amen si vous aspirez vraiment à plaire à Dieu. Marc, chapitre 16. Dieu agit avec vous. Alors, il y a eu beaucoup de signes et prodiges qui nous accompagnaient. Si Dieu est avec nous, il faut plaire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce que je vive dans ce monde, que je puisse annoncer le sang de Jésus qui était le dernier message de Jésus agi par le Saint-Esprit pour que je puisse annoncer le sang de Jésus.